Cascodeur Podcast, épisode 224. Interview sur le burn-out avec Géraldine Carilla. Enregistré le 16 décembre 2019.
Merci beaucoup de votre soutien au Cascodeur via Patreon. Ça nous aide beaucoup, on en parlera un peu plus tard dans un épisode de cette année. En tout cas, merci de votre soutien sur patreon.com/lescascodeurs. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, un épisode interview. Alors, il ne va pas être nécessairement technique, en tout cas, on va parler un peu moins d'informatique. Je suis avec Géraldine, que je connais depuis un petit peu de temps quand même maintenant.
Bah, au moins 10 ans, non ?
Ouais. Et tu vas nous expliquer, je démarre toujours par ta vie, ton œuvre. Alors, qui es-tu ? Alors, tu travailles dans l'informatique, mais...
Mais je ne suis pas informaticienne.
Ah bon ?
Donc je suis senior manager facility operation.
Ouais.
Donc c'est très clair pour tout le monde.
Ouais, voilà. Donc en vrai ça veut dire quoi?
En vrai ça veut dire services généraux, gestion des bureaux, du fonctionnement, de la vie au bureau.
Ouais. Que les baby-foot fonctionnent.
Voilà. Que l'électricité, que les factures soient payées pour qu'il y ait de l'électricité.
Ah oui, il y avait cette histoire, c'est vrai.
Enfin bon, que en fait c'est en gros tout va bien. On a bien fait notre travail.
On n'entend pas parler de toi.
On n'entend pas parler de nous. Et personne ne s'aperçoit qu'on travaille, en fait.
Ouais.
Mais en fait, c'est quand tout va bien qu'on a bien travaillé.
Et aujourd'hui, on va parler de burn-out. Est-ce qu'il y a un nom français, d'ailleurs, à ça ?
Ouais, je crois que c'est burn-out.
Ah, d'accord. On va pas se compliquer la vie. Et parce que tu es passé par un burn-out...
Voilà, c'est ça.
Et du coup, on va échanger un peu sur là-dessus, soit pour que peut-être vous puissiez vous reconnaître là-dedans, ou soit que vous voyez des gens qui sont en train de faire ça, et d'essayer de vous sensibiliser à ça. On en a pas mal discuté, nous, ensemble, mais c'est vrai que c'est toujours difficile, tant qu'on n'a pas vécu un peu ce genre de choses, de se dire... elle fait un burn-out, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ce bordel? En fait, elle a envie de rentrer chez elle et dormir, nanana, ou il ou elle d'ailleurs, évidemment. Et voilà, donc l'idée, c'est d'échanger un peu là-dessus pour que les gens aient une petite conscience un petit peu supérieure de ce que c'est. Mm. Voilà.
Ouais, c'est vrai que le burn-out, moi j'avais déjà entendu le mot, je croyais que je savais ce que c'était, jusqu'au moment où ça m'est arrivé, et où après je m'y suis intéressée un petit peu plus, et je me suis rendu compte qu'en fait... Je ne savais rien, quoi.
Ouais.
Et si j'avais su, peut-être que j'aurais reconnu les symptômes, etc. Ouais. Mais en fait...
Et toi, t'es manager aussi.
Ouais.
Et je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit, mais moi, ça m'est arrivé. Mais en fait, la personne à qui c'était arrivé, j'avais un peu mis ça de côté, genre, ouais, qu'est-ce qui lui arrive?
C'est moi, je suis pas très fière, mais c'est moi.
Ah ouais, non, mais je pense que ça fait partie du... Je pense que c'est hyper humain de réagir comme ça, ouais, tant qu'on n'a pas vécu un peu dans ses tripes.
C'est ça.
Ce truc-là. Alors, c'est quoi la définition officielle? Parce que l'OMS a défini ça, c'est ça?
C'est ça. L'OMS a défini ça. Alors, l'OMS a défini ça comme un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré.
D'accord. Donc stress, bon, ça, on comprend à peu près.
Même si le burn-out, c'est pas juste le stress.
Ouais. Bah, même pas juste le stress chronique, à la limite.
Ouais.
Parce qu'après, il y a des choses qui vont probablement se ressembler, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais dépression, burn-out, tout ça, on a l'impression que c'est quand même un peu dans la même famille, pourtant c'est des choses différentes. Donc après une définition aussi courte, ça ouvre l'interprétation.
Mmh. Et puis,
il y a un truc que tu n'aimes pas, toi, là-dedans.
Ouais, moi j'aime pas le côté qui n'a pas été correctement géré,
ouais.
Parce qu'on a l'impression que c'est la personne qui n'a pas su gérer son stress et qui s'est retrouvée en burn-out, alors qu'en fait, c'est... Il n'y a pas un seul facteur, il y a plein de facteurs et il y a plein de composants, ouais. Je voulais juste te raconter une petite anecdote avant, en fait.
Ouais.
En fait, j'aime bien raconter cette histoire En fait, j'ai une de mes cousines, Claire, qui a eu... 50 ans cette année, et avec mes autres cousines, on avait décidé de lui faire un anniversaire surprise, donc ouais. Elle habite à la montagne, venant de Paris, j'ai pris le train et tout, puis je suis dans le train.
Alors attends, je vais donner un petit contexte, parce que t'es quand même la personne super organisée, qui aide à organiser pour les autres, donc tout bien carré, on peut te faire confiance, tout va bien se passer, etc.
Et surtout, je supporte pas quand c'est pas carré.
Ah, je l'ai pas dit, j'ai pas dit.
Et donc bref, je suis dans le train et puis j'envoie un petit texto à mon autre cousine Aurélie qui est censée me récupérer à Chambéry. Et donc j'envoie un petit texto, je lui dis c'est bon, je suis dans le train et tout. Donc elle me répond, elle me dit ah ouais super, tu vas où? Donc c'est à quoi je lui réponds ah super drôle, bah comme toi à l'anniversaire de Claire. Et là elle m'appelle et elle me dit c'est le mois prochain l'anniversaire de Claire. Et là grand moment de solitude, je suis dans mon train et je me dis oh merde, qu'est-ce que je fous là, sachant que déjà j'étais vraiment crevée et que je me disais peut-être je devrais pas y aller, peut-être, et que j'ai une amie médecin qui m'avait dit n'y va pas, t'as trop de choses, tu fais trop de choses, n'y va pas quoi.
Ouais.
Bon, enfin bref, et puis en fait je me disais mais non mais si, mais ça je dois le faire, et puis en plus j'apportais la carte. Donc je peux pas ne pas y aller.
C'est indispensable, sinon ça va rien se passer.
Et puis et en fait à l'époque, bon, j'ai trouvé ça un peu marrant, un peu triste, un peu. Enfin, je crois que j'étais de toute façon trop fatiguée pour avoir une réaction autre. Et en fait à l'époque, je savais pas que c'était un symptôme. Et après, en fait, quand je me suis intéressée au burn-out, et je me suis rendu compte que c'était un symptôme. Et par exemple, quand j'ai fait ma visite à la médecine du travail, quand j'ai raconté cette anecdote au médecin, elle m'a dit « c'est bon, je veux pas en entendre plus ». Elle, pour elle, c'était...
C'était évident.
C'était évident et c'était déjà énorme, quoi.
Et tu disais qu'en plus, ça, tu l'avais planifié depuis des semaines, voire des mois. C'est-à-dire que tu avais mélangé deux dates mois sans t'apercevoir que c'était pas la même.
Exactement. C'est-à-dire que...
Parce que moi, ça m'arrive préparer un voyage et donc je prends le vol le 13, reviens le 16 et en fait, je me suis trompé. C'est 13 novembre, 16 décembre. Là, je fais oups, bon, tu peux appeler la SNCF, essayer de corriger le truc. Mais en général, je m'en aperçois, juste après.
Oui, oui, en fait, je pouvais très bien, dans la même conversation, parler... Parce qu'en fait, il y avait... Donc, c'était en février. Ben, le vrai anniversaire, c'était en mars, le 15 mars. Et le faux, c'était en février. Et donc, dans la même conversation, je pouvais très bien gérer les deux week-ends. C'est-à-dire que dire, ah oui, mais en février... Enfin, je disais pas en février, mais je disais, ah oui, il y a l'anniversaire de Claire, mais ah oui, mince, je suis en déplacement... en Espagne après, ah, je voulais me faire un week-end, bon bah c'est pas grave. Et puis 5 minutes plus tard, parler de l'anniversaire de Claire en disant que ah oui mais j'ai dîné avec ses copines là, alors est-ce que j'y vais le vendredi, est-ce que, alors que c'est à 2 mois d'intervalle, enfin à 1 mois d'intervalle, ouais. Mais dans la même conversation, en fait je me rends même pas compte que je parle de deux choses différentes quoi.
Ouais.
Et bon, et puis après des petites anecdotes comme ça, je suis partie en vacances une petite semaine, je suis rentrée, j'ai cru qu'on avait cambriolé mon garage, mais juste j'avais pas fermé la porte quoi.
Ouais.
Et ça, enfin pour quelqu'un qui me connaît comme toi, c'est typiquement pas quelque chose qui va m'arriver quoi.
Ouais.
Donc
De stresser là-dessus si. Mais d'oublier non. Ok, alors tu disais qu'il y avait en fait toute une palanquée
de
symptômes.
Ouais, il y a toute une palanquée de symptômes, mais en fait c'est la combinaison de ces symptômes, qui crée le syndrome du burn-out.
Ouais.
Et des symptômes, il y en a plein. En fait, il y a des symptômes émotionnels, des symptômes mentaux, cognitifs, physiques.
Et lié au travail,
ouais. Et à un moment donné, je m'étais fait la liste de tous les symptômes, et puis je m'étais dit, parce que... Non, de tous les symptômes que j'ai recueillis au fil de mes recherches, et je me suis dit, je vais me noter ceux que j'ai eus.
Un petit stabilo.
Puis hein, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, arrête, parce que en fait, ces gens, je peux cocher pratiquement toutes les cases. Ouais. Il y en a peut-être sur...
T'as pas fait d'infarctus, je crois que ça fait partie, hein, d'ailleurs.
Ouais.
Ouais. Donc, vas-y, donne-en quelques-uns, quand même, en exemple.
Bah, typique, c'est les pertes de mémoire. Ouais. Bon, t'as tous les symptômes physiques du style... mal de dos, problème de peau. Tiens, j'ai pas fait celui-là. Mais problème de peau, ça, c'est un symptôme typique des gens qui font de l'eczéma, qui vont avoir des poussées d'eczéma. Ouais. C'est très caractéristique. Problème de digestion.
En plus, t'es super énervé. Tu vas voir ton médecin, tu dis j'ai mal au dos et j'ai un problème de peau. Et là, il vous dit prenez, faites du repos. Et là, c'est pas ça mon problème. Mais en fait, peut-être.
L'extrême fatigue, le changement de poids. Bon, ça, c'est plutôt sur les symptômes physiques. Alors, moi, ce que j'ai eu, c'est le truc majeur où mon médecin m'a dit bon allez hop on arrête tout là, c'était la pression artérielle. Parce que moi je prenais déjà des médicaments pour contrôler ma pression, et en fait le jour où je me suis finalement décidée à appeler mon médecin après 3 mois que une amie de médecin me disait il faut que tu t'arrêtes vraiment, et en fait il m'a pris ma tension et j'avais 21-12, donc pour ceux qui connaissent un peu les...
En général c'est plutôt 12-7,
c'est ça, voilà. Donc là 21-12, sachant que je prends déjà un médicament, il y a un problème quoi. Après, dans les signes émotionnels, il y a, ça peut aller de la colère à la tristesse, à l'extrême sensibilité. Donc moi, extrême sensibilité, en fait, à un moment, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'étais au bord des larmes en permanence, quoi. On me disait comment ça va, c'est juste, j'allais pas éclater en sanglots, quoi. Ouais. Maintenant, j'en rigole sur le coup. J'en riais pas trop parce qu'en fait c'est très compliqué de travailler, tout est problématique, et puis surtout le manque de confiance, l'idée que on devient nul, on est incapable, des choses qu'on était capable de faire tout à coup on n'est plus capable de les faire, tout prend des heures, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, parce qu'on n'arrive pas à travailler, parce qu'on n'arrive pas à s'organiser, parce que tout est compliqué quoi. Et, et tout est compliqué, et on se dit toujours, ah, mais c'est parce que je travaille pas assez. Donc, faut que je travaille plus, Et là, on rentre.
Il y a beaucoup de renforcement.
Voilà. Et en fait, on rentre dans le cercle. Ouais. Parce qu'en fait,
sur le boulot, c'est quoi, spécifiquement? Il y en a qui sont...
Bah, sur le boulot, ça va être, à la fois, le manque de... En fait, on perd l'appétit de tout, quoi. Enfin, on perd l'appétit du travail. On est à moitié désengagé, mais en même temps incapable de prendre des initiatives. Tout à coup, on se met à faire des erreurs qu'on faisait pas. Il y a une baisse de productivité.
On est désengagé, mais stressé de pas en faire assez.
Ouais.
Et du coup, tu t'accumules des heures pour essayer de compenser.
Et de toute façon, enfin, le manque de concentration fait que t'es incapable de travailler, quoi.
D'accord.
Et puis, donc, t'as une perte de productivité énorme. Pour certains, ça va être de l'absentéisme. Il y a des gens qui vont,
Il y en a qui peuvent aller jusqu'à ne pas pouvoir se lever le matin.
Ouais,
peur, en fait.
Exactement.
Ouais.
Oui, puis enfin, je connaissais quelqu'un. Oui, c'est ça. Le matin, tout à coup, il pouvait plus se lever, quoi.
Ouais.
Bah, tout à coup, ton corps pèse 3 tonnes et tu peux pas mettre un pas devant l'autre, quoi.
Ouais.
Et puis oui, le stress, la peur. Moi, j'étais en mode, on va me virer, quoi. Donc tout le monde me disait, mais pourquoi on va me virer? Parce que on va s'apercevoir que je fais pas mon travail, quoi. Et puis, et le fait que ça fait 17 ans que je suis là, ça n'a rien à voir. Et le fait que je faisais très bien mon travail pendant 17 ans, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Tout à coup, on est, enfin, oui.
Bon, sachant que tu avais quand même un petit historique de syndrome de l'imposteur qui est là depuis pas mal d'années, quand même. Mais...
Oui, mais là, il atteint son summum, quoi.
Ouais. Ouais.
Mais, ouais. Donc, après, il y a tout un. Il y a des étapes, en fait, dans le burn-out. Il y a
pour noter le côté sérieux du truc, donc il y en a quelques-uns que t'as pas fait heureusement, suicide.
Ouais, c'est-à-dire que en fait tout ça, le burn-out peut mener à la dépression par exemple,
ouais.
Et la dépression peut mener au suicide, quoi.
Ouais.
Même si le burn-out et la dépression, ce sont deux choses différentes, quoi. Enfin, c'est souvent la dépression ça atteint tout la sphère privée, la sphère professionnelle. Le burn-out, c'est plutôt la sphère professionnelle. Après, il y a des difficultés dans la sphère privée, mais elles sont pas tant liées au burn-out. Enfin, il y a pas de dégoût dans la sphère privée, c'est plus le manque de temps, le stress qui influence la sphère privée, mais pas...
On en parlera après, mais ouais. Ce que tu disais, la sphère privée se réduit parce que tu augmentes celle du travail pour compenser, en fait.
Ouais. Ouais. Ça prend toute la place. Et après, ben malheureusement, il peut, enfin le burn-out, ça peut mener à des choses très graves comme un AVC, comme une crise cardiaque,
une pression artérielle.
Exactement.
Voilà. Plein de conséquences.
Voilà. Et puis,
D'accord. Et donc, ça vient par phase, tu disais.
Oui, ça vient par phase, en fait. Et ça touche pas... Enfin, ça touche beaucoup de personnes. Et on avait...
Tu disais une sur cinq une de sur... valeur.
Ouais, ouais. On a, j'ai lu des études qui disaient que en France et aux États-Unis, une personne sur cinq aura fait un burn-out au cours de sa vie professionnelle.
Ouais.
Ce qui est énorme, quoi. Et...
T'as vu s'il y avait des... Les gens qui travaillaient dans le Information Age elle était un peu différente en termes de statistiques qu'une personne qui va être chauffeur de taxi ou...
Alors, en fait, le burn-out, ça a commencé... Je sais pas si ça a commencé... Bon, en tout cas, ça a commencé à être identifié dans le milieu du travail. Dans le milieu hospitalier.
D'accord.
Parce qu'en fait, un des facteurs du burn-out, c'est aussi cette espèce de... de décalage entre l'investissement que tu veux y mettre et ce que tu es capable de faire, enfin dans le sens donc pour
ton investissement et les résultats, c'est ça que tu veux dire,
ou l'espace que tu as pour le faire, quoi. Et donc typiquement, enfin ça va être plus clair quand je te parle de l'hôpital, c'est-à-dire que c'est des gens, les infirmiers, les aides-soignants, c'est des gens qui sont dévoués aux autres. Et à partir du moment où on commence à introduire de la rentabilité, où on commence à n'avoir pas assez de personnel, en fait il y a un décalage entre ce qu'ils voudraient donner aux autres et investir pour les autres et ce qu'ils sont capables de faire ou ce qu'ils ne sont pas capables de faire dû au manque de personnel, dû au manque de temps, etc. Donc c'est en conflit, il y a un conflit de valeurs, c'est ça qui est important.
Conflit de valeurs, ok.
Et le burn-out, c'est souvent un conflit de valeurs. Enfin, quand on parle de problèmes, par exemple, une des causes du burn-out, ça peut être aussi... il y a souvent une cause due au management, à la société, etc. Et quand c'est dû au management, c'est souvent une histoire de conflit de valeurs. C'est-à-dire que toi, t'as certaines valeurs et on te demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs. Ou un manager va te mettre de la pression sur quelque chose qui pour toi n'est pas adéquate. Ou alors il y a un manque de reconnaissance. Parce qu'en fait, on peut en parler quand on parle des processus, mais en fait, des différentes phases.
Tu peux en parler maintenant.
Ouais, c'est ça. Les différentes phases, en fait, il y a une phase. Et ce que je voulais dire, c'est que ça touche pas tout le monde dans le sens où on a peut-être l'idée que ça touche des gens qui sont, que le burn-out, c'est des gens qui sont paresseux, des gens qui arrivent pas, etc. Et en fait, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est des gens qui sont très engagés, des gens qui sont très très méticuleux. Et donc, il y a une première phase qui est la phase d'engagement où la personne est très investie dans son travail, il prend du plaisir. Et puis, il va y avoir un déclic. Donc, est-ce que c'est...
À ce moment-là, en tout cas, son travail,
tout se passe bien.
L'entreprise amène le bon carburant pour que
voilà.
Soit comme une fusée.
Tout se passe bien. La personne, c'est en général quelqu'un qui est reconnu, qui tire une reconnaissance de son travail, qui s'investit, etc. Tout se passe bien. Et puis il y a un événement qui se passe, donc ça va être je sais pas un nouveau projet, ça va être un changement de poste, un changement de manager, quelque chose qui fait que tout à coup il y a un surinvestissement.
D'accord.
Il y a un surinvestissement et le travail prend de plus en plus de place dans la vie de la personne. Donc
en général, on se dit c'est temporaire.
Voilà, c'est bien quand c'est temporaire. C'est-à-dire que ça se passe très bien si c'est temporaire. Mais ça se passe pas, justement, si c'est pas temporaire. Et puis c'est là où on voit aussi les différences de personnalité. Mmh. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un, chaque personne est différente et qu'une personne pourra dire, oh, oh là, moi je peux pas m'investir plus, il me faut de l'aide, etc. Et puis, il y a des gens, au vu de leur parcours, au vu de leur, leur personnalité, qui vont, s'investir en se disant je peux en faire plus et puis si j'en fais pas assez ben c'est de ma faute
etc. Je cherche à prouver, ouais.
Voilà, donc en fait la personne il y a une sorte de phase de résistance où on est dans le surmen.
Attends, parce que je voulais revenir sur un truc, ouais. Tu dis il y a quand même un déclencheur que j'avais l'impression à la base que tu exprimais externe au sens où la société fait une évolution de valeur qui fait qu'on se met, on est mal à l'aise ou, mais après quand c'est bon tiens je te promeux à tel autre truc, c'est, enfin c'est un facteur externe, mais c'est quand même beaucoup à la, avec la, enfin c'est la personne face à ce changement là, c'est pas le manager qui appuie avec un scalpel pour essayer de.
Oui, mais je pense que, enfin, en tant que manager, on a toujours une responsabilité. C'est-à-dire que je te promeux dans une nouvelle responsabilité, mais est-ce que je t'ai bien débarrassé de tes responsabilités précédentes, ou est-ce que je t'ai promu et en fait, t'es en train de cumuler deux postes.
Ouais, d'accord.
Tu vois,
ouais.
Parce que oui, si je te promeux et je te donne les outils pour te forme pour accéder au nouveau poste. Oui, bah très bien, tout se passe bien.
D'accord.
Maintenant, si je te demande aussi de, enfin, si c'est juste des responsabilités supplémentaires que je rajoute et que les anciennes tu les gardes, là il y a une responsabilité managériale. Voilà, c'est ça.
Ok, donc les phases.
Donc on a vu la phase d'engagement, on a vu la phase de surengagement, la phase de résistance. En fait, c'est t'es en mode je suis en surengagement, mais tu nies qu'il y a un problème. En fait, plus ça va, moins tu y arrives. Mais en fait, tu penses que tu vas y arriver si tu travailles un peu plus. Et ça, typiquement, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. C'est-à-dire que j'y arrivais plus. J'y arrivais pas, puis en plus, quand t'y arrives pas, alors qu'avant t'y arrivais, tout à coup, il suffit qu'il y ait un changement de manager, ce qui fut aussi mon cas, d'un manager que tu connais pas forcément et qui savait pas forcément que ça se passait bien avant, qui va se dire, ben, elle y arrive pas. Donc c'est de sa faute.
Donc, sans parler du stress supplémentaire que toi tu te mets en disant, faut que je me prouve à cette nouvelle personne.
Voilà. Et puis bon, moi, si je dois parler de mon cas, je me suis aussi retrouvée à jouer deux rôles, quoi. À avoir mes responsabilités passées et me rajouter une responsabilité supplémentaire.
D'accord.
Parce que un manager dans mon équipe est parti et que j'ai repris son équipe en plus de celle que j'avais déjà, quoi.
D'accord. Et la résistance, de ce que tu me décrivais, c'est genre tout le monde le voit sauf toi, ça.
Oui, c'est
Captain Obvious.
Je sais pas si tout le monde le voit sauf moi. Enfin, je vais dire que les gens qui me connaissent très bien le voient. Mmh. Et donc moi j'ai une amie d'enfance qui est médecin et qui m'a dit il faut que tu t'arrêtes. Tu viendras dans mon cabinet, je t'aurais arrêté pour 15 jours. Alors, à la fois, quand je me dis ça, je me dis, ah, bah, tiens, c'est marrant, la dernière fois que tu m'as dit ça, c'était il y a 10 ans, et c'était avant que je fasse une sorte de nervous breakdown. Et bon, je me dis ça, et en même temps, je me dis, non, mais ça va aller. Et puis surtout, je suis en mode, un manager, ça s'arrête pas. Un manager, ça flanche pas. Un manager, parce que sinon, t'es pas un manager, quoi. Sinon, t'as rien à faire là, quoi.
T'as une définition du manager.
Bah,
parce que,
c'est le moment de se mettre un peu de pression,
gens,
quoi.
L'audience est plutôt un manager, ça sert à rien. Un manager, ça ralentit.
Bon, bah, ok. Bah, comme manager, j'espère. Hein. Donner une autre vision, vraiment. Donc oui, donc c'est la grande phase du déni, même si je l'appelle pas comme ça, enfin quand je suis dedans, quoi.
Ouais.
Quand je suis dedans, je me dis juste, j'y arrive pas parce que je travaille pas assez, parce que je m'organise pas assez, parce que et puis surtout parce que je suis nulle, parce que c'est la catastrophe, etc. Ouais. Quoi. Et puis en fait, comme on est dans cet état, plus ça va, moins ça va, quoi.
Ouais. Oui, parce que c'est pas. Enfin, genre, on passe pas d'une semaine à complètement burn-out en une semaine, en fait. C'est progressif, mais ça a une inertie, j'imagine, assez forte. On en parlera après, comment on récupère, mais on récupère pas en disant, ça y est, je sais que je fais un burn-out, et puis je me prends 3 jours de repos et ça se passe bien.
Mm-mm. Et puis, il y a aussi tous les symptômes physiques qui se mettent en place et que encore une fois, je voulais pas reconnaître, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, que je n'ai plus de symptômes physiques, je reconnais moi-même, tiens, c'est bizarre, je peux me déplacer, je peux me lever sans avoir mal au dos, je peux m'asseoir sans avoir mal aux fesses, enfin bon, c'est... Et je me dis, ah, tiens, c'est marrant, parce que quand même, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de choses qui allaient pas, ouais. Mais dont je me disais, dont je me disais rien, quoi. Juste, ça n'allait pas, et je me disais, bon, ça va passer, ou... Et puis, c'est pas comme si un jour j'avais toute la liste de syndromes, hein, toute la liste de symptômes. J'avais un jour j'avais ça, le lendemain j'avais autre chose, le surlendemain j'avais autre chose. Il y avait ça qui revenait, ça qui partait. Enfin bon, ouais. C'était ça n'allait jamais vraiment. Mais bon, je me disais, t'as qu'à manger plus sain, t'as qu'à faire plus d'exercices. Ah oui, tiens, j'ai pensé ça. Peut-être c'est mon lit. Bon, j'ai changé le matelas de côté. C'est les chaussures.
Donc, résistance, ensuite.
Et ben ensuite, c'est un peu la phase d'effondrement, quoi. Alors, qui peut être...
Ça s'appelle comme ça
Oui, j'avais lu un truc où ça s'appelait comme ça. Et qui peut être progressive ou brutale, en fait. Brutale, c'est le gars qui peut plus se lever le matin. Progressive, c'est... J'ai envie de dire, c'est un peu mon cas. Mais
du coup, ça s'est passé comment au-delà de la résistance, tu vois? Parce que là, tu t'étais déjà en phase, t'arrivais en moins en faire, mais t'en faisais de plus en plus. Donc, c'est qu'est-ce qu'il y a?
Bah, je crois qu'à un moment donné, en fait, enfin moi, le déclic, ça a été que à un moment donné, dans le travail, je me suis retrouvée exclue d'une réunion dans laquelle à laquelle normalement je participais, et je me suis dit non, mais c'est bon, j'en peux plus. Là. J'en peux plus. Et puis j'avais toujours cette amie d'enfance qui était là à me dire mais appelle le médecin, appelle le médecin, appelle le médecin. Et puis d'autres amis autour de moi qui commençaient à dire mais c'est un peu inquiétant quand même. Les gens qui me demandaient de mes nouvelles, mais ça va, mais je m'inquiète un peu pour toi, etc. Mais bon, après moi je me disais ah oui, ils sont gentils.
Ils sont gentils, mais j'ai pas le temps. Là.
Et puis, je sais pas, un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais appeler le médecin. Ouais, on verra bien. Et puis, c'est encore le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais appeler le médecin, et puis, il va me dire que j'ai rien, quoi. Ouais, donc,
de toute façon. Et là, quand tu dis appeler, c'est parce que t'es passé par la...
Alors, non, mon médecin généraliste.
Médecin de famille.
Mon médecin généraliste.
D'accord.
Un autre symptôme dont j'ai oublié de parler aussi, c'est le fait que je dormais hyper mal, quoi.
Ouais.
Que en fait je dormais pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que, et ça c'est une des questions que mon médecin m'a posé, comment vous dormez? Ce à quoi j'ai répondu, bah écoutez, je dors pas vraiment, mais en même temps le matin je me réveille assez facilement, etc. Ce à quoi il m'a répondu, bah oui, c'est normal parce qu'en fait votre esprit il est en permanence connecté sur votre travail, et c'est pire que tout parce qu'en fait ça veut dire qu'il se repose jamais. Et là, c'est là où ça crée des problèmes mentaux, quoi. C'est-à-dire que des problèmes mentaux. parce qu'en fait, le corps doit se reposer et l'esprit doit se reposer, quoi. Et si l'esprit se repose pas, eh ben, je pense que les pertes de mémoire, je pense que les confusions, tout ça, c'est un peu comme si ça était en train de brûler de l'intérieur. Et moi souvent en fait j'ai l'impression qu'à un moment donné j'étais en train de conduire une voiture de course ou pas de course, hein, mais sur une plaque de verglas, quoi, et que j'ai perdu le contrôle, quoi, et qu'à un moment donné j'avais beau tourner le volant dans tous les sens, il se passait rien, quoi.
C'est Ville Coyote, tu sais. Et ça, tu le prends, j'imagine, pas forcément super bien, ton médecin, quand il dit « je t'arrête, je sais pas combien, 15 jours, 3 semaines ».
En fait, je pense que moi, j'avais besoin que ce soit quelqu'un d'extérieur qui me dise « stop », qui prenne la décision pour moi, quoi.
Ouais.
Parce que moi, bon, la décision que j'ai prise, c'est de l'appeler, mais après, j'étais vraiment en mode... Bon, en l'occurrence, je l'ai appelé, puis quand il a commencé à me dire « alors, dites-moi, qu'est-ce qui va pas ?» bon, là, un quart d'heure de pleurs, lui en a compté que, franchement, j'y arrive plus, etc. Et là, en fait, il a eu, enfin, j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça, parce que c'est un médecin super, etc. Et
il a pas dit, je suis pas ta mère.
Non.
Il a dit, mais pourquoi tu m'as fait?
et donc,
juste petit aparté, tu sais s'ils sont assez formés, les médecins, bien reconnaître ce genre de choses ou...
Je suis pas sûre.
Ouais. Enfin, t'as eu des échos dans tes lectures et des machins.
Non. Mais après, en fait, quand je parlais avec la psychologue ou avec le médecin du travail, ils étaient tous très, très reconnaissants par rapport à mon médecin généraliste d'avoir eu la bonne attitude, la bonne réaction, ouais, etc. Ouais. Et visiblement, c'est pas toujours le cas.
D'accord.
C'est ce que j'ai entendu. Et parce qu'en fait, la prescription de mon médecin généraliste, tu vas voir, ça a été « Donc, votre ordinateur, là, je veux plus que vous y touchiez. C'est un arrêt total. Le boulot, c'est fini, là. Mm-hmm. » Et puis là, il m'a filé un arrêt de 15 jours et je lui dis « Mais qu'est-ce que je vais faire pendant 15 jours ?»« Ah ben, c'est très simple. Vous allez sortir de chez vous tous les jours et vous allez aller voir des amis, vous allez aller au cinéma, vous allez voir des expos, vous allez vous faire masser et vous allez voir qu'il y a une vie en dehors du travail. » Donc, c'est
pas forcément ce qui est arrivé tout de suite, d'ailleurs. Ce que je me souviens.
Si, en fait, la première semaine, j'ai vraiment fait ça, que j'ai vraiment suivi à la lettre, etc. Bon, après, il m'a doublé mes médicaments contre l'hypertension. Mais il m'a pas... Ouais, alors, il m'a prescrit un anxiolytique que j'ai pris, genre, deux fois, parce que je voulais surtout pas devenir addict. Et puis après, ben ouais, je suis sortie, j'ai fait à la lettre ce qu'il m'a prescrit. Je crois que dans ces 15 jours-là, je suis peut-être allée voir une acupunctrice aussi. Et là, j'ai sursauté à chaque aiguille qu'elle a essayé de me mettre tellement j'étais en hypersensibilité.
Je n'ai jamais fait l'acupuncture, mais en même temps, si tu me dis quelqu'un qui met les aiguilles dans le corps et j'ai sursauté, moi, ça ne me choque pas particulièrement.
Ah non, mais aujourd'hui, elle me le fait, je ne sursaute pas du tout, quoi. Et ça ne me fait rien, et ça me dit... Mais parce que... Enfin, c'était peut-être l'hypertension, enfin, c'était tout, mais...
Ce que tu m'avais dit aussi, c'est que tu avais dormi des heures et des heures. Alors, c'est peut-être pas la première semaine,
ouais,
du coup,
peut-être
mais...
après, ouais. Et puis
t'avais toute une phase où tu pouvais ne faire
je crois
plus
que c'était...
rien,
ouais.
Et après tu t'es mis à faire des activités autres que boulot.
Ouais, en fait, je pense, si je me souviens bien, les 15 premiers jours j'ai essayé de sortir, de faire tout ce qu'il me disait à la lettre, etc. Et puis en fait après il m'a reprolongé d'une semaine et demie. Pendant cette semaine et demie, en fait, j'ai beaucoup dormi. Et puis après, bon, de toute façon, je me suis sentie mieux, etc. Et puis, de toute façon, comme j'étais en mode, quand même, cette culpabilité...
Ouais, parce que ça avançait pas, là-bas. Tu laissais tomber ton équipe...
Voilà, et puis, de toute façon, on allait me virer... ouais. Et puis, je profitais du système, quand même... 3 semaines et demie d'arrêt, enfin, parce que sachant qu'en 17 ans, c'était quand même mes premières 3 semaines et demie d'arrêt, je profitais carrément de la sécu et tout ça, quoi.
Ouais.
Et donc, je suis revenue au bout de 3 semaines et demie. Et d'ailleurs, au bout de 3 semaines et demie, bah, aussi, par exemple, mon manager, elle avait pas compris du tout ce qui se passait. C'est-à-dire que, elle, clairement, j'ai pas envie de dire que je me foutais de sa gueule, mais presque, je pense que c'est un peu comme ça qu'elle l'a pris. Donc elle m'a mis un rendez-vous dans mon agenda, genre j'aimerais qu'on fasse le point sur quoi exactement, parce qu'en 3 semaines et demie il s'est rien passé. Oui, mais sur avant, quoi. Ah d'accord, avant. Mais et sinon, tu veux prendre de mes nouvelles ou
Oui, en plus, elle avait pas. Oui, c'est vrai, je me rappelle, il y avait eu un peu de tension.
Donc, bref, donc c'était assez tendu. Si bien qu'en fait, j'étais un peu en mode. Ouais, c'est bien cette société, on s'intéresse aux collaborateurs, il y a plein de.
Sachant qu'il y avait justement des messages sur le bien, enfin, pas le bien-être, le well-being. Alors, je sais pas s'il faut traduire ça par bien-être, mais voilà, l'équilibre. Travail perso, etc. Donc il y avait des messages, voilà. Et toi, tu dis, bah, entre le message et la réalité, tout différent.
Bon, donc ça l'a un peu mouché. Elle a dit, mais pas du tout, mais pourquoi tu dis ça? Mais ta santé, c'est plus important, etc. Bon, ouais. Bref. Donc c'était un peu tendu, bref. Et puis en fait, tu m'avais parlé de cette présentation que cette société externe qui s'occupe des collaborateurs chez nous avait faite, et tu m'avais dit appelle-les, ils ont un programme de retour des salariés, etc.
Voilà, après c'est un arrêt. Hotline qui, pour le contexte, qui est indépendant qui est payé par la société, mais indépendant de la société, et qui sur plein de sujets différents, mais notamment ceux-là où on peut appeler, avoir un psychologue au bout du fil, et de manière anonyme, demander un peu des conseils.
Voilà. Donc, du coup, je les ai appelés pour dire, OK, on m'a dit que vous avez fait une présentation sur le retour, donc moi, je vous appelle pour ça, pour le retour, etc. Donc, je parle
C'est ça, parce que, oui, c'est ça. Le contexte était là, ça paraît un peu beaucoup, donc peut-être faudrait que je démarre, je sais pas comment reprendre et pas retomber dedans, en fait. Je crois que c'était ça, là-dedans que tu l'appelais en disant, donnez-moi des petits conseils pour repartir.
Et puis tu m'avais dit, ils nous ont dit qu'ils ont des plans en place pour aider les salariés à reprendre, etc. Donc j'appelle, je tombe sur une psychologue, et donc elle me dit, bon, racontez-moi et tout, donc je raconte un peu mon histoire et tout, donc j'ai été arrêtée, puis maintenant je reprends, et puis je vous appelle, parce que je reprends et que vous avez des trucs pour reprendre, etc. Elle m'a dit, ok. Donc, alors, maintenant il va falloir m'écouter bien, bien attentivement, parce que vous allez retourner chez votre médecin, et puis il va vous arrêter à nouveau. J'ai quoi? Non, moi je vous appelle pour que vous m'aidiez à reprendre. Non, mais j'ai bien compris pourquoi vous m'appelez. Mais si vous allez écouter ce que moi je vous dis, parce que moi je suis psychologue clinicienne, je connais bien tout, je connais bien ces cas-là, etc. Et là, vous n'êtes pas du tout en état. Vous n'êtes 3 semaines et demie, on se remet pas d'un burn-out en 3 semaines et demie. Et puis vous, de toute façon, là j'entends, vous êtes en train de pleurer.
Pas du tout.
Pas du tout, je pleure pas. Et donc c'était un peu un dialogue de sourds, et en fait j'étais en plein encore dans le déni, parce que j'étais encore dans le déni, j'étais encore dans la culpabilisation, j'étais encore dans ils vont me virer, j'étais vraiment, et c'est marrant parce que après, pour avoir lu un peu sur le burn-out, etc., je me dis, enfin, ça me fait marrer de penser que pour elle, j'étais presque un cas clinique, quoi. C'est-à-dire que tout ce que je disais,
toutes les lumières au vert.
C'est ça. Tout ce que je disais pour elle, c'était, ok, donc elle, celle-là, pour qu'elle retourne, pour qu'elle s'arrête là. Et alors que moi, j'étais en mode, non, mais je veux reprendre, Enfin bref. Donc, mais j'ai eu de la chance là encore une fois parce que la psychologue sur laquelle je suis tombée était super, et qu'à chaque moment elle était toujours là pour dire là il faut que vous preniez un peu plus de temps, il faut que vous alliez dans telle direction, et puis on continue le dialogue et elle a souvent des questions, comme moi j'ai des points qui vont pas, elle va me poser la question qui va me faire réfléchir et avancer, quoi. Donc, ça c'est plutôt super, quoi.
Et alors, là, on est dans quelle phase, en fait? On est après l'effondrement, on est où, là?
On devrait être dans la phase de reconstruction. Ouais. Enfin, on est dans la phase de reconstruction, mais qui est pas terminée, quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que on est encore dans la phase de, où je crois que je suis reconstruite parce que je me suis arrêtée pendant 3 semaines et demie.
Ouais.
Et en fait, c'est pas le cas.
Et en fait. Conscience, en fait.
Ouais. Enfin, ouais, ou encore une fois. Et puis, en fait, quand je dis beaucoup, en fait.
Ouais, encore une fois aussi, mais c'est pas grave. Moi, les gens le savent, j'ai l'éthique aussi.
Parce que quand je discutais avec la psychologue et que je voulais pas vraiment m'arrêter, je lui disais, mais qu'est-ce qui va se passer de toute façon si je m'arrête pas? Si je continue? Et là, elle m'a dit, ben, vous voyez votre corps, il vous a donné des symptômes, des signes, pour vous dire, ça va pas, on n'en peut plus, etc. Ben, ça va être pire. Peut-être que vous allez faire un AVC, peut-être que vous allez faire une crise cardiaque. Bon, là, j'aime beaucoup mon travail.
Quand même.
Mais je me suis dit, bon, allez, ok, c'est bon, ça suffit, là.
Tu dis, j'aime beaucoup mon travail, mais je pense qu'à cette époque-là, tu disais pas
j'aimais
forcément
pas,
ça.
Ouais, ouais. J'aimais plus. C'est vrai. Mais, ouais, je suis un bon petit soldat, donc il faut le faire, quoi.
Ouais.
Donc, bref.
Ouais, il faut, c'est toujours des phrases où il faut s'arrêter et se dire, tiens, c'est quoi l'alerte qui vient de s'allumer, là. Il faut, j'ai pas le choix, toujours en juin. Donc là, tu repars
Voilà, je repars comme en 40, mais en arrêt.
Ouais.
Et là, en fait, je suis rentrée dans une phase où il fallait vraiment que je trouve comment m'en sortir, quoi. Parce que les 3 semaines et demie, en fait, je croyais que je m'en étais sortie, mais c'était pas le cas. Donc, le psychiatre que je suis pas allée voir, ben, je me suis dit, il faut que j'aille voir un psychiatre. Et puis surtout, j'étais en phase de tout ce que tout le monde me disait, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais, je sais pas, faire de l'acupuncture, tu devrais faire... Ben, je disais oui à tout, quoi. Donc je suis allée voir un psychiatre. Bon, ça s'est pas très bien passé, puisque lui, il m'a vu, il m'a parlé pendant 20 minutes pour découvrir que j'étais en dépression et qu'il fallait que je prenne des médicaments. Donc ça,
ouais,
je veux bien, mais non. Et puis on m'a dit, ah, il faut que t'ailles voir un hypnothérapeute. Bon, ok, d'accord. Donc je suis allée voir un hypnothérapeute. Je suis sortie de la séance en me disant, ouais, ok. Et puis en fait, oui, ça a très bien marché, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, dès après la première séance, enfin dès ça, c'était une chaque semaine, et dès au bout d'une semaine, j'ai vraiment senti un mieux. Peut-être que ça m'a aidé à enlever toutes mes pensées négatives, etc. J'ai continué à travailler avec la psychologue. Et puis j'ai une amie qui m'a dit, ah, mais moi je prends des cours de sculpture, tu devrais venir avec moi. Donc voilà. Voilà, j'étais vraiment ouverte à tout. D'ailleurs, après, quand j'ai recommencé à dire non, je me suis dit, ah tiens, je vais mieux, je dis non maintenant.
C'est vrai.
Mais, et puis après, enfin, c'est là aussi où on voit enfin, le soutien des amis. Moi, je me suis, enfin, j'ai beaucoup parlé avec des amis. Et puis, en fait, j'étais tellement perdue que j'étais vraiment... très ouverte à toute conversation, et je me suis retrouvée à avoir des conversations hyper enrichissantes
ouais.
que je n'ai pas forcément habituellement, parce que je peux être plus discrète, plus fermée. Là,
non, mais je pense que c'est vrai de... Pardon, on a eu cette conversation, mais la société, de manière générale, c'est que ah, je me suis cassé la jambe, ou j'ai 5 points de suture pour XY, c'est ah, complètement les gens comprennent, arrivent à se projeter. Tiens, ça n'a pas en ce moment dans ma vie pour XY, Z. C'est quand on commence à parler qu'on s'aperçoit qu'en fait ça arrive à 80% des gens, mais que personne n'en parle, donc ça reste un peu les jardins super secrets. Et on a l'impression que tout le monde sont des superstars, des machines de guerre, et en fait pas du tout. Et voilà, c'est un vrai. Enfin, c'est un vrai drame de ne pas en parler assez de ces choses-là pour que les gens puissent finalement remettre un peu et réétalonner ce qu'ils attendent en fait d'eux-mêmes dans le travail et la vie perso, et etc.
Ouais. Et puis, oui, il y a un côté à être plus vrai et à parler vraiment de ce que tu ressens. Tout à coup, les gens.
Salut, ça va ? Bah non, voilà.
Bon, pas forcément comme ça, mais c'est marrant le coup de, enfin, là j'enfonce une porte ouverte, mais le truc de, on reconnaît ses amis quand ça va mal, là clairement je l'ai vu, quoi. C'est-à-dire que, ouais, les gens qui s'intéressent à ce qui se passe vraiment, qui passent du temps, etc., qui sont là, quoi. Et ça, c'est hyper important de pouvoir échanger.
C'est dans le sens positif. Enfin, tu vas me corriger, mais j'espère pas. Mais c'est plutôt dans le sens positif, au sens ouais, j'ai des amis, mais bon. Et en fait, il y a quand même plein de gens qui ont fait un peu une chaîne autour de toi pour
ah
parler,
oui,
etc.
Ah
c'est
oui.
Pas genre ah bah tiens, on reconnaît ses amis, j'en ai plus.
Mais non, bien sûr que non. Non, mais c'est aussi.
Dans les films, c'est comme ça.
Non, mais c'est aussi des gens dont t'es plus ou moins proche, qui tout à coup sont devenus très proches, quoi. Ou qui ont vraiment investi du temps, qui se sont vraiment occupés et inquiétés, quoi. J'ai une amie qui m'a dit quelque chose qui m'a touchée, quoi, qui m'a dit « Tu es remplaçable dans ta société, mais tu es irremplaçable pour nous, quoi. » Et souvent, c'est quelque chose auquel je pense en me disant, ben oui, c'est vrai, en fait, enfin, on peut être toutes les stars qu'on veut au sein de notre travail, à un moment donné, on va être remplacé, quoi. Maintenant, dans le cœur des gens qu'on aime. Bonjour, c'est le pathos,
ouais. Ouais.
Mais, enfin, mais est-ce que j'ai, ce dont je me suis rendu compte en m'intéressant au burn-out, aux symptômes, etc., et en y réfléchissant moi-même, c'est comment on en arrive là aussi. C'est on parle beaucoup de vie privée, vie professionnelle, etc.
D'équilibre.
Moi, je préfère parler d'énergie, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie, qu'est-ce qui t'enlève de l'énergie. Et il y a des choses qui peuvent être dans le cadre de ton travail qui t'amènent de l'énergie. Et il y a aussi des choses qui peuvent t'amener de l'énergie à un moment donné et plus à un autre moment, quoi. C'est-à-dire que, bah, typiquement, par exemple, voyager dans le cadre de mon travail ou voyager tout court, moi, ça m'a toujours plu. Mais là, quand ça m'est arrivé, je voyageais... j'avais fait le calcul sur 45 jours, j'avais voyagé 30 jours... à titre professionnel, y compris les week-ends, plus 4 à jour à titre privé, plus j'avais eu des visiteurs au bureau qui faisaient que, enfin, sur 45 jours, j'avais eu 38 jours occupés pour le travail, quoi, ou presque, quoi. Et ben, tout à coup, ce qui me faisait plaisir me faisait plus plaisir, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, maintenant que j'ai repris, que ça va mieux, je suis quand même dans un état un peu de stress quand je pars en déplacement professionnel, ce qui ne m'arrivait jamais avant, quoi. Mmh. Ce qui avait toujours été un plaisir, etc.
Stress de quoi ?
Je sais pas, anxiété. Enfin là, les deux derniers déplacements que j'ai eus, j'étais en mode, j'ai du mal à respirer.
Non, mais est-ce que c'est stress que tu te refasses embarquer, que tu
ouais,
te retrouves à 30
ouais.
jours sur 45
Ouais, ou
non, on est pas là pour faire une analyse, mais
ouais.
J'étais juste
non, mais sur, peut-être juste que ça se passe, enfin le stress que le voyage se passe pas bien, quoi. Enfin, que je me retrouve dans un truc où je sais pas comment m'en sortir ou je sais pas.
Ouais.
Bon, là, je vais partir en vacances privées, on va voir si je suis stressée.
Ça marche. Et donc maintenant.
Et donc l'énergie. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'il faut identifier ce qui t'apporte de l'énergie, ce qui t'en enlève, et surtout identifier qu'à un moment
c'est
donné,
pas statique.
Ouais, c'est pas statique. Et puis surtout, bah typiquement par exemple moi ce que j'adore faire aussi c'est aller au cinéma. Et l'année, enfin cette année avant de, enfin l'année dernière ou cette année avant de m'arrêter, je m'aperçois que j'ai vu 10 films dans l'année, quoi. Alors que je suis plutôt du genre à voir 30-40, quoi.
Ouais.
Donc quelque chose que j'aime faire, tout à coup. Je vois que je l'ai pas fait, quoi. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être attentif, c'est-à-dire de faire attention. Qu'est-ce que t'aimes faire et est-ce que tu continues à le faire ou est-ce que t'es en train de ne plus le faire et de laisser ton travail prendre le pas, quoi. J'ai quelqu'un dans mon équipe, par exemple, qui adore chanter et qui me disait l'autre jour, je crois que je vais arrêter parce que j'ai pas le temps, quoi. Ah, je lui ai dit, mais il en est même pas question, quoi. C'est-à-dire que si tu commences comme ça y est, c'est fini, quoi. Tu vas droit devant, quoi. Parce que quand tu fais ces choses en dehors du travail ou dans le travail, mais ces choses qui t'apportent de l'énergie, ben c'est toute cette énergie que tu emmagasines qui te permettent d'en perdre dans des choses que t'aimes pas particulièrement, quoi.
Ouais. D'accord. Et donc là, maintenant, donc toi, t'as repris, je sais plus comment c'est passé, mais
donc,
quelqu'un t'a proposé d'un mi-temps.
Voilà, au bout de 2 mois d'arrêt, j'ai repris par un mi-temps thérapeutique d'un mois, et puis à nouveau un mois. Donc en fait, en tout, j'ai eu 2 mois d'arrêt à temps plein et 2 mois d'arrêt en mi-temps thérapeutique. Puis après, j'ai pris une semaine de vacances, et j'aurais dû prendre plus parce que j'étais un peu... Mais je peux dire que en fait, c'est même après les 2 mois à mi-temps, en fait, j'ai repris lentement. J'ai repris avec la psychologue qui m'a donné pas mal d'exercices du style, ben, qu'est-ce que tu veux organiser pour reprendre, quelles sont les bonnes intentions que tu vas mettre en place, etc. D'ailleurs, on a eu un échange marrant parce que je lui disais, ben, je vais essayer de pas partir tard du bureau. Elle m'a dit, très bien, ça veut dire quoi, pas tard, hein, si on peut donner un horaire, etc. Bon, je lui dis, ben, je sais pas, tard, c'est 7 heures, quoi. D'accord, donc pas tard, ça veut dire quoi, dans ma tête, je me disais, bon, bah,
c'est toi,
ça. Non, tu vois, j'étais cool, j'étais 6h30, quoi. Et là, elle me dit, et je veux pas entendre 6h30. Ah bon? Donc elle lui dit, mais ça sera 5h30.
Ouais, parce que sinon, là, j'imagine que là, il faut que t'apprennes le gradient entre je me la joue cool versus je suis à la limite, quoi. Donc si tu dis 6h59, c'est cool, et 7h, c'est trop, ça marche pas.
Et puis surtout, en fait, donc elle m'a dit, ça sera 5h30, ce à quoi j'ai dit, mais quoi?
Bah là, c'est bien l'après-midi.
C'est ça. Mais en fait, tout à coup, si on se dit on part à 5h30, bon, dans la réalité, on part pas à 5h30. Mais au moins, à 5h30, on commence à se dire, ah tiens, il faut que je pense à partir, quoi. Ouais. Alors que si je me dis 6h30, bon, à 7h, je commence à penser à partir, quoi. Ouais. Et là, il est 9h, enfin, bon, bref. Donc...
Et après, juste, je vais reprendre l'analogie de dans une autre interview, d'ailleurs, où on parlait de productivité... alors je sais plus le détail, mais en gros le point, c'est ce qu'on sait faire, c'est un peu comme une autoroute, donc on peut mettre plusieurs choses en parallèle, mais à un moment, quand il y a trop de voitures, ça avance plus du tout. Et oui. Donc on a beau avoir plein de voitures potentielles qui vont avancer en parallèle, mais au final ça va pas avancer. Mm-hmm. Et donc c'est pas parce qu'on arrête à 5h30 pendant X temps, ou même sur le long terme, que on va nécessairement, enfin, on va récupérer en énergie et peut-être faire autant, être aussi efficace sur les choses qu'on a envie de faire.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est quand on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle, la vie professionnelle, elle s'arrête pas à 5h30. Parce qu'en fait, même après 5h30, tu vas continuer à penser à ton projet machin, ouais. Ah oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et tout à coup, tout ça empiète sur ta vie privée, entre guillemets. Ouais. Donc, ce temps-là, c'est aussi un temps qui ne t'appartient pas à titre privé, quoi.
Ouais.
Donc, souvent, quand on demande à mesurer, faut bien penser à ça, quoi. Ouais.
Donc, maintenant, on va parler un peu d'aider les autres, mais pour l'instant, là, t'es sur toi-même, t'es consciente, t'essaies de faire explicitement attends, tu t'as gardé un peu les règles que t'avais discuté avec la psychologue, du coup?
Ouais. Bon, je peux pas dire que je parte à 5h30, mais j'ai fait pas mal de télétravail, par contre.
Ouais. C'était avant les grèves.
Ouais, j'ai commencé avant les grèves. D'autant plus que le médecin du travail m'avait dit que c'était bien, que ça serait bien pour moi d'en faire jusqu'à 3 jours par semaine. Et donc ça j'ai
Pourquoi
mis ça en place.
Il y avait une raison.
Bah parce que c'est bien aussi de prendre la distance, c'est bien, enfin moi j'habite pas juste à côté, donc m'éviter le temps de transport, c'est bien aussi pour ne pas alourdir trop les journées et puis c'est bien aussi, oui, de prendre un peu de distance par rapport au travail
au sens environnement, collègue.
Ouais. Ouais. De pas être trop sollicité, etc., quoi. Après, comme j'ai pas mal de meetings par vidéo, etc., que je les fasse chez moi ou au bureau. Ouais.
Ah, d'ailleurs, j'ai une question, du coup, technique là-dessus. Donc, tu reprends à mi-temps, tu peux même pas caser le minimum possible de meetings que t'avais avant, en fait. Tu vois, avant, tu devais probablement avoir 70% de ton temps en meeting et 30% pour le reste. Donc là, t'es à mi-temps. Alors, tu fais quoi? Tu fais que des meetings?
Alors, déjà, je me pose la question de est-ce que ce meeting est absolument indispensable pour moi?
Ouais.
Donc, et puis, j'arrête de laisser les gens gérer mon agenda.
Ouais.
C'est-à-dire que je crée des plages dans mon agenda où je ne suis pas disponible.
Ouais.
Je bloque des plages dans mon agenda où je ne suis pas disponible. Je bloque des plages dans mon agenda où j'ai quelque chose de précis à faire, etc. Et puis, je réduis les durées des meetings. C'est-à-dire que j'arrête de faire des meetings d'une heure, j'en fais d'une demi-heure. Et je me pose la question de est-ce que j'ai besoin d'être à ce meeting, oui, non.
Et puis, dans le mi-temps thérapeutique de mémoire, donc ton manager, alors je vais pas dire qu'elle avait fait un 180, mais en tout cas, du coup, vous aviez discuté, qu'est-ce que je prends, et de facto, le reste, pour l'instant, je le prends pas. Parce que tu n'avais pas repris le portfolio entier de ce que tu avais avant.
Ben en fait, ce double rôle que j'avais,
ouais.
Je l'ai plus. Et en l'occurrence, le rôle du manager qui était parti, que j'avais repris, ben en fait, il est complètement sorti de mon scope, quoi. C'est-à-dire que ce manager ne reporte même plus sous moi, quoi. Donc oui, j'ai un scope moins important. Même si ça reste quand même assez important.
Non, mais c'est pas tant sur le long terme que je pensais, c'était quand t'avais repris à mi-temps, tu, par définition, tu peux pas faire autant que ce que tu faisais à temps plein avant. Et que, du coup, je crois que il y avait vraiment tel projet, tel projet et pas le reste.
Ouais, quand j'avais repris, c'était plutôt, j'étais restée un peu sur la phase des 2 mois où je ne faisais rien, enfin oui, où j'étais arrêtée, je ne faisais rien, et où en fait j'avais repris petit à petit, quoi. C'est-à-dire
d'accord.
Que ce qui était déjà en place pendant mon arrêt à temps plein est resté en place, et petit à petit j'ai repris.
D'accord. Donc là on voit une super transition sur comment on peut aider les gens. Donc maintenant on a quelques clés pour savoir, tiens, ça paraît bizarre ce qu'on me dit. Donc on vit pas le burn-out, mais on voit quelqu'un qui visiblement a les cheveux en feu, etc. Comment on peut aider, qu'on soit collègue ou manager, et voilà, détecter ce genre de choses.
Bah déjà, je pense que pour le détecter, il faut regarder comment la personne est habituellement et comment elle est devenue, entre guillemets, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que quelqu'un qui est très joyeux, tout à coup, est très triste, il y a un problème.
Ouais.
Quelqu'un qui avait du temps pour toi, qui tout à coup n'en a plus. Parce qu'en fait, c'est aussi se fermer aux autres, hein, le burn-out. C'est, de toute façon, on s'enferme à l'intérieur du cercle, mmh. Et on n'est plus disponible pour rien, on n'arrive plus à rien. Donc c'est être vraiment en éveil par rapport à des changements. Et souvent, c'est pas les gens qui vont te dire « Ah, je crois que je suis en train de faire un burn-out », qui sont dans un burn-out.
Ouais.
Hein. C'est ceux qui vont te dire « Mais je comprends pas ce qui se passe, j'arrive plus à travailler, j'ai mal partout, j'arrive plus à dormir. » Mais parce que une des grandes caractéristiques du burn-out, c'est quand même le déni, quoi.
Ouais.
Donc,
oui, et tu comprends pas, il faut que je le fasse.
Ouais. Donc les gens qui te disent, je suis en train de faire un burn-out, peut-être ils sont épuisés, peut-être ils sont stressés. Mais le burn-out, c'est pas juste le stress, c'est vraiment la combinaison de tous ces symptômes qui créent le syndrome, quoi.
Donc toi, t'as eu des gens qui t'ont dit quand même, c'est quand même bizarre ce qui se passe. Ah oui, tiens, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est, tu penses que ça a commencé en combien de temps? On a parlé de 2 mois d'arrêt total, après encore 2 mois de récupération à mi-temps. Donc, mais avant, ça, il s'est passé comment?
Je pense que ça a commencé à peu près un an avant que je sois arrêté. Il y a eu différentes choses qui ont fait. Ça a commencé en fait où j'ai eu un conflit avec un country manager dans un pays qui était très challenging. Ça se passait pas bien, etc. Mais à ce moment-là, j'avais l'énergie et la capacité à lui répondre, à être en confrontation, etc. Même si je suis pas la reine des confrontations ni que je n'aime ça, mais j'étais capable de faire ça. Après, c'est l'accumulation, quoi. On a eu le déménagement ici, j'ai eu l'autre poste, enfin les deux postes en même temps, le changement de manager. Enfin, j'ai l'impression que j'ai tout accumulé. Et puis, je me souviens que mon père était décédé deux ans avant, donc cette année-là, j'avais aussi toute la gestion de la vente de l'appart, de vider l'appart, etc. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans ma vie privée qui fait que ça faisait aussi que j'avais pas beaucoup de temps, que j'étais bien stressée, et que j'étais peut-être aussi extrasensible, etc., quoi. Mais en même temps, étant dans cette situation, je vais me dire que, il faut que je sois aussi bonne au bureau, donc je vais travailler encore plus, ouais. Enfin bon, bref.
Et je pense que ça faisait au moins 3-4 mois que les gens disaient, quand même, peut-être qu'il y a quelque chose, quoi.
Ouais. Et puis...
Et bon, alors c'est le paradoxe, les gens, ils écoutent pas quand ils sont dans le burn-out. En tout cas, ils sont en phase de résistance.
Ouais.
Donc comment on fait ?
Ben, je pense que dans ces cas-là, nous, on a la chance ici d'avoir une ligne téléphonique... Et moi, j'aurais tendance à déjà conseiller d'appeler quelqu'un ou d'aller voir son médecin ou et puis aussi essayer de parler aux gens et de les faire s'exprimer, quoi.
Ouais.
Parce que et puis une fois qu'ils se sont exprimés, peut-être leur dire mais écoute, tu sais, ça va pas, quoi. Après, moi qui suis passée par là, je me rends compte que par exemple, j'ai eu quelqu'un dans mon équipe qui allait pas bien, etc. Et quand elle a commencé à me parler, je me suis dit, oula, c'est vraiment... elle dormait pas, mais elle comprenait pas ce qui se passait, mais pourtant, elle travaillait beaucoup, et elle travaillait encore plus. Enfin, elle était en justification de, mais sinon, je travaille, hein. Enfin bon. Et moi, je sais ce que j'ai mis en place pour elle, c'est-à-dire que j'ai dit, bon, il faut qu'elle ait plus d'aide, il faut que qu'on réorganise le travail pour lui permettre de souffler un peu, et puis peut-être il faut qu'elle prenne des jours.
Ouais.
Parce que
du point de vue du manager, c'est aussi détecter que là, quand tu rajoutes, ça fait trop, même si les signaux ils sont pas évidents, du genre, c'est finalement quelque part, c'est assez rare la personne qui dit. Alors déjà, c'est assez rare la personne qui dit. Enfin, il y a deux cas.
Enfin, moi, ça s'est passé par exemple pour celle-là, c'est ouais. Une tierce personne qui m'a dit que elle. Elle avait fait une crise d'angoisse et donc je suis rentrée en contact avec elle, mais elle m'avait pas contactée, quoi.
Ouais, parce qu'il y a le gars qui dit j'ai trop à faire, mais du coup en tant que manager tu sais jamais vraiment si c'est vrai ou si c'est fait partie de la négo. Et il y a surtout la personne qui dit ça va ou je dis rien parce que bon, voilà, on en parlait tous les syndromes du faut sinon je vais me faire virer, etc. Et eux, justement, il n'y a pas de répondant. Et du coup, naturellement, tant que personne qui essaie de répartir la charge, tu rajoutes. Et puis, comme il n'y a pas de retour du genre « ça fait trop », tu peux surcharger la barre, quoi.
Et par exemple, par rapport à cette personne, une des questions que je lui ai posées aussi, c'est... je lui ai parlé de l'énergie, quoi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle... Et je me suis rendu compte que, par exemple... je lui ai posé texto la question, qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie, etc. Et quand elle m'a dit ce qu'il lui en apportait, je lui ai dit, alors, est-ce que tu le fais? Ah ben non, ces derniers temps, j'ai pas le temps, ou ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, etc. Mmh. Donc rien que lui dire, écoute, ça serait bien que tu recommences, ça serait bien que tu fasses attention à ça, parce que c'est ça qui va t'aider, je pense que ça l'a aidé, quoi.
Ouais. Et après, moi, je pense que c'est aussi c'est une accumulation, donc tu peux encourager ces gens. Alors déjà, le fait d'avoir la conversation, c'est top, et parce que c'est une pierre de plus à l'édifice où le médecin va arriver avec son autorité de médecin pour aider. Mais je pense que si tu arrives de bout en bout dans le médecin, il y en a peut-être qui vont être aussi dans le déni.
Ouais.
Sauf si, voilà, il y a déjà eu quand même pas mal de gens qui pointaient vers la même direction. Donc, je pense que toutes ces conversations peuvent aider... même si elle est dans le déni au moment de la conversation ou dans le même en pointant les incohérences que ça fasse pas fonctionner.
Mmh.
Donc tout ça peut aider.
Après, le burn-out, souvent, enfin, si on est dans la phase finale du burn-out, malheureusement, le seul remède, entre guillemets, c'est...
C'est le crash.
Non, mais c'est de tout arrêter, quoi. C'est, ouais, de, ouais, c'est d'arrêter le travail et de prendre du repos, quoi. Mais vraiment du repos, quoi.
Ouais.
Après, ce dont je me souviens, c'est que quand j'étais arrêtée, en fait, j'avais peur de plus jamais être capable de retravailler, quoi. De perdre l'envie totale et puis de plus pouvoir, quoi. Bon, heureusement ça revient, etc., mais bon, c'est à dire que je pense que j'étais arrivée à un point où j'étais épuisée, quoi. Enfin,
et après t'avais monde, aussi donc, enfin, pendant ce chemin à un moment t'as réussi à dire bah je vais reprendre mais ça sera peut-être pas à la date.
Ouais.
T'es aussi à cette phase, t'avais accepté que voilà, il fallait peut-être devoir passer à autre chose ou pas. Et enfin, du coup, tu vois, quand tu mets tout ça sur, voilà, c'est sur la table. Du coup, t'es quand même plus sereine pour refaire tes choix.
Et puis, et c'est là où je dis que ça a été positif pour moi, si tant est qu'on puisse dire ça, c'est que ça m'a permis de prendre de la distance, quoi. Et que. Ouais. Et que je me suis rendu compte que bon, ok, c'est un travail que j'ai beaucoup aimé, que je peux aimer encore, mais ça reste un travail, quoi.
Ouais.
Et que en fait, à un moment donné où où c'était devenu vraiment risqué physiquement et que j'en étais à me créer des propres des symptômes, etc. Mais enfin, il y a aucune raison que je me tue au travail, quoi. Et vraiment, ouais, c'était ça, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que je me souviens d'une fois d'un meeting avec mon manager qui me demandait de faire telle chose, etc. Et où je lui ai dit texto, mais si je dois me concentrer uniquement sur ça, je vais mourir. Et elle me dit, mais je comprends pas, pourquoi tu dis ça? Parce que être dans ce contexte-là, m'occuper que de ces gens-là, je vais mourir. Il faut que je respire.
C'est ça, pour, enfin, sans donner trop de détails, mais ce contexte-là, c'est typiquement une situation qui te prenait énormément d'énergie, sans en donner aucune.
Voilà.
Et donc, voilà. Donc là, ce que te demandait la personne, ben, je sais pas si t'avais posé ces mots-là, déjà, à l'époque, probablement pas, mais c'était, voilà, le truc qui va te consommer en énergie, je te donne zéro dans ton travail en truc qui te donne de l'énergie.
Voilà. Et donc, avant même d'avoir fait d'avoir réfléchi sur le burn-out et d'avoir lu des trucs, en fait, j'avais des ouais, c'est ça, parce que oui, je parlais de, mais il me faut que je puisse respirer ailleurs, quoi. Ouais. Il faut que je sois en contact avec d'autres gens qui sont plus bienveillants pour me donner de l'énergie, quoi.
Ouais.
Donc ouais, c'est marrant parce qu'en fait et puis je pouvais très bien dire ça en étant encore dans le déni de ça va mal, quoi. Enfin.
Ouais, ouais.
Enfin bon, je voyais que ça allait mal, mais bon, comme c'était de ma faute, bon.
Ouais. Ouais. Bon bah probablement aller dans la phase conclusion. Est-ce qu'on a oublié des choses, des grosses choses, ou et puis.
Bah, je dirais que pour éviter le burn-out, en fait.
Ouais.
Peut-être qu'il faut garder des choses en tête qui sont du sens commun, mais écouter son corps et être à l'écoute de tout signe de mal-être ou de symptômes, manger sainement, ne pas se surcharger de travail, se réjouir au maximum de des petites choses, bon, garder cet équilibre, enfin en tout cas garder des choses qui te font plaisir, qui t'apportent de l'énergie, faire des breaks dans
ouais,
son travail.
Que, juste pour là-dessus, c'est le fameux équilibre travail perso. Pour moi, tant que tu t'es pas pris une baffe, enfin c'est difficile d'apprécier ce concept-là tant qu'on s'est pas pris une baffe liée à ce sujet-là, quoi.
Mm-hmm.
Et c'est dommage, mais peut-être que la métaphore de l'énergie elle peut aider plus, parce que voilà, on peut déjà l'appliquer à beaucoup plus deux choses et
voilà. Après, moi, c'est pas comme si je bossais le week-end précédemment, enfin quand ça allait mal, je passais tout mon week-end à bosser. Non, je passais tout mon week-end avachi devant ma télé, à moitié assoupi, à essayer de récupérer de la semaine, quoi. Mais justement, en fait, arriver le week-end à n'avoir plus d'énergie, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal parce qu'en fait, ça veut dire que toute ta semaine est consacrée à ton travail. Ok, pas à travailler. Ouais.
Parce que le week-end est consacré à la récupération.
Oui, mais en fait, c'est lié à ton travail, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que j'avais plus d'énergie pour voir des gens, pour faire autre chose. Donc, c'était pas du travail, mais c'était la pure conséquence de ça, quoi.
Ouais.
Et par exemple, le fait de plus être en contact avec les autres, de plus avoir de vie sociale, ça aussi, c'est une alerte, quoi. Après, on m'a dit aussi, et je trouve que c'est assez vrai, de se rappeler que rien ne sera jamais parfait, quoi. Donc, vouloir la perfection, ça marchera pas. De toute façon, ça n'existe pas. Et ça ne fait que causer...
Là, on en revient à une des causes que tu expliquais, c'est-à-dire ce déconnecte entre tes attentes et en gros la réalité, ou une séparation entre ton aspiration et ce que... Je crois que c'était une des causes que tu donnais dans le début du burn-out, c'est qu'entre tes valeurs et,
ouais.
Et voilà, ce que tu peux effectivement produire, et le disconnect, il vient aussi du fait d'être capable de se dire qu'on va pouvoir aller sur la Lune deux fois par jour, quoi.
Ouais. Oui, et il vient aussi de se dire je veux que tout soit parfait, et tant que tout n'est pas parfait, je continue à bosser sur la perfection. Ben non, ça marche pas. Et puis je pense qu'il faut être ouvert et dire quand ça va pas, quoi. Tirer la sonnette d'alarme, demander de l'aide, partager la charge de travail, dire que ça va pas avec tel ou tel manager, et puis souvent on va se faire une montagne des choses, et quand on les exprime, au final, la plupart du temps ça se passe bien, quoi.
Ouais.
Et si ça se passe pas bien, peut-être faut changer de société, je sais pas.
Ouais. Après, c'est plutôt des gens dans l'informatique qu'on a, donc c'est pas non plus le truc le plus difficile à faire.
De changer.
De changer, s'il y a besoin. Ouais.
Surtout pour les informaticiens.
Voilà, c'est ça. Good, bah merci, merci de ce partage.
Mais merci.
Et voilà, j'espère que ça va participer à ce que les gens augmentent cette sensibilité là-dessus et soient capables d'éviter ça. Ça serait qu'on passe de 1 sur 5 à 1 sur 6. Donc, si vous reconnaissez un petit peu trop, allez voir votre médecin ou une hotline quelconque si vous avez la chance d'avoir ça dans votre boîte.
Il y a un test en ligne aussi qui peut être fait.
D'accord, si tu as le lien, je pourrais le mettre.
Juste le lien, en fait, sur le test, à la base, c'était un test qui était fait pour le personnel soignant. Donc, on parle beaucoup de patients, de aidants, etc. Bon, après, il suffit juste de changer un peu dans sa tête.
Ouais. Clear.
Moi, j'avais fait le test. Bon, c'est bon, j'étais à 99% en burn-out.
Et encore, tu étais déçue, tu vas être à 100%.
Ben non, parce que c'était pas parfait, tu vois.
Ah ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Géraldine.
Merci, Emmanuel.
Et puis, merci aux auditeurs. Et puis, à la...
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.